Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Un des livres qui est riche, incroyablement riche, c'est le livre des Proverbes. Bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tant qu'enseignant, j'ai réalisé que j'enseignais pas aussi souvent que j'aurais dû puis que j'aurais pu dans le livre des Proverbes. Donc, on commence maintenant une petite série. Il y a vraiment une grande sagesse, une grande utilité. Il faut faire peut-être un petit peu plus de travail parce qu'il faut aller chercher l'enseignement. Et c'est comme des fruits de mer, là, des homards, qu'il faut prendre les pinces cassées puis aller chercher ce qui est bon. Mais ce qui est bon vaut vraiment la peine d'aller le chercher. Il y a un grand enseignement, il y a une grande sagesse, très utile pour nos vies. Et on va faire cet effort de travailler un petit peu plus fort, mais afin de dire « Wow, hey, il y a tout ça dans les Proverbes et ça s'applique vraiment à notre époque. » Un proverbe, hein, premièrement, on ne fera pas ça toutes les semaines, mais de situer un peu. Quelqu'un a dit qu'un proverbe est une déclaration concise d'une vérité générale. Hein, ça, c'est encore plus mélangé. Hein. On va dire que c'est une petite phrase pour dire des grandes choses. Donc, des choses qu'on pourrait expliquer, démontrer, Salomon, puis autant dans la vie de tous les jours, les auteurs ont été capables de, en quelques mots, d'aller chercher un élément important de la vie, un enseignement. Donc, une petite phrase pour dire de grandes choses. Dans le livre des Proverbes, c'est une observation une déclaration suite à une observation de la vie qui dit normalement c'est ce qui arrive. Hein? Si tu mets du feu dans ton sein, tu vas te brûler. Aujourd'hui, on dit si tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Donc, pour mettre le contexte, c'est Salomon, un homme très sage, guidé par le Saint-Esprit, que Dieu a utilisé pour nous transmettre un enseignement précieux, une portion de sagesse. Et on le sait hein, dans le livre d'un roi que Dieu a donné à Salomon, une sagesse, une grande intelligence au-delà. Il était l'homme le plus intelligent, le plus sage de toute son époque. 1 Corinthiens 4, 29 dit « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. » Et il est dit qu'il a prononcé 3000 sentences et il venait des gens de tous les peuples. Merci. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Imaginez comment Salomon était spécial. Il était riche, mais il était utilisé par Dieu pour construire, reconstruire le temple, achever. Mais il avait cette sagesse. Quand on connaît la fin de la vie de Salomon, la sagesse, c'est la connaissance, c'est d'avoir cette intelligence pour saisir les choses. Il y a toujours, au-delà de cela, le défi d'être capable de le prendre puis d'avoir un cœur obéissant, un cœur d'enfant qui dit, « Papa, Père Céleste, je voudrais faire le contraire, j'ai pas le goût, c'est dur, mais je te fais confiance puis je t'abandonne. » Donc, ce qu'on a, c'est c'est l'enseignement, c'est le contenu, c'est la richesse. Mais on a quelque chose à faire avec ça. C'est à nous de décider. Un des défis également qu'on a, c'est de transposer les vérités d'une époque, hein, qui est environ il y a 3000 ans, avec sagesse et équilibre. On ne veut pas se priver, mais on ne veut pas non plus prendre des proverbes, pas comprendre l'enseignement, puis mal diriger nos vies à cause de cela. On va commencer ce dimanche avec un premier sujet, les relations interpersonnelles, les relations humaines. Et est-ce que c'est important pour Dieu, nos relations qu'on a avec les autres? Oui. Quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et l'autre qui lui est semblable? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce qu'on voit sur comment entrer en relation avec les gens, des connaissances, des personnes plus proches, plus intimes, c'est au cœur de Dieu. Dieu se soucie des gens. Jésus a dit que celui qui dit « raca » à son prochain, il mérite d'être puni. Il mériterait d'être puni comme celui qui a fait un meurtre parce qu'il tue son cœur, il l'abaisse, il le ridiculise. Dieu se soucie des relations. Les relations, c'est probablement la chose qui peut nous apporter la plus grande source de joie dans la vie. Parce que, oui, les biens matériels, oui, l'argent, mais notre cœur, il en mange pas de l'argent. Mais notre cœur, l'amour qu'on peut recevoir des gens, l'appréciation, l'encouragement, notre cœur se nourrit de ça. Donc, ça peut être une très grande source de joie, puis en d'autres occasions, c'est vraiment une grande source de tristesse ou de douleur. Le livre des Proverbes contient une foule d'enseignements sur les relations et on va les diviser en deux ce matin. Premièrement, on va voir les connaissances. Les connaissances, c'est les gens qu'on côtoie de façon sporadique, des gens qu'on voit une fois de temps en temps ou des gens qu'on côtoie régulièrement, comme des gens au travail, mais que il n'y a pas un grand échange, il n'y a pas une intimité. Donc, les connaissances et l'autre catégorie, les amis intimes, c'est-à-dire les gens qui sont près de nous, les gens avec qui on entretient des rapports continus, des gens dans lesquels on a une grande influence et qu'eux aussi ont un impact dans notre vie. Donc, ces gens-là, on veut en prendre soin aussi d'une façon tout à fait spéciale. Avez-vous hâte de lire votre premier proverbe? Parce que vous allez en lire plusieurs, hein? On va se réchauffer tranquillement. Ça va demander un peu un effort intellectuel, mais je pense que ça en vaut la peine. Donc, on commence avec les connaissances. Premier bloc, des gens attirants, les grands de ce monde, les gens qu'on admire puis qu'on dit « Ouh! » Cette personne-là, j'aimerais être comme elle, puis j'aimerais qu'elle me donne quelque chose. Donc, on va commencer à lire nos premiers proverbes. Proverbes 23, 1 à 3. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Donc, un danger qui nous est dit, on va le compléter, en voulant avoir ce que l'autre a, ce que le riche, le puissant de ce monde a. Donc, de ne pas commencer par convoiter puis de vouloir mettre la main dessus. 23, 6 à 8. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, le riche, hein? Il ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, il t'invite, puis il dit ça, mais dans le fond, il te méprise, il n'y a aucune considération pour toi. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. On termine avec le dernier verset. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Donc, si c'est d'être un peu trop gentil avec des gens qui ont un pouvoir. Quand je réfléchissais sur cette façon, puis sur cet aspect-là, là, j'aurais pu prendre 10 versets de plus. Il y en a partout dans le livre des Proverbes. Quand je réfléchissais, je me disais, il me semble que c'est un peu moins vrai à notre époque, parce que quelqu'un est riche, qu'on va se mettre à ses genoux, puis qu'on va être en admiration. Je pense que c'est davantage vrai dans des époques de pauvreté, quand il y a des crises économiques, des époques où on est à la merci des riches pour recevoir un petit peu parce qu'on est vraiment mal pris. Je pense qu'on n'est pas à une époque où on se met à genoux devant des très riches. Hein. On peut même les regarder, de dire, oh, regarde, moi, j'ai tout ce qu'il me faut, puis lui, là, tu sais, comment il a gagné son argent, puis regarde ce qu'il en fait, puis on est tous différents là-dessus, on peut les regarder de travers, on peut les admirer, ou on peut simplement là, dire, hey, je l'envie pas, puis c'est pas un exemple pour moi. Ce verset-là nous dit qu'il n'y a rien de plus agaçant que de voir quelqu'un hein, lécher les bottes d'une personne influence pour en recevoir un avantage. Et là, j'essayais de réfléchir. Les personnes puissantes, ça peut être puissante du côté richesse, de l'argent, mais ça peut être aussi puissante par rapport au côté popularité, notoriété. Et là, je me suis mis à penser à Facebook puis à toutes les plateformes où là, il y a des gens qui sont connus, puis tous les commentaires, puis on est tout en train d'admirer. Ah, oh, il a mangé telle chose, il est allé dans tel hôtel, il a fait ça la fin de semaine. Il y a comme quelque chose de malsain d'être trop gentil avec des gens qui ont un pouvoir dans le but de recevoir un petit peu de ce pouvoir-là, un petit peu d'attention, de se coller à eux en disant « je vais être plus important ». Quand on pense au Seigneur, hein, on est tous importants devant Dieu. Donc, quand on entre en relation, Jacques 2 hein, nous parlait du favoritisme, les chrétiens qui invitaient les riches, puis disaient « prends la place d'honneur », puis à ceux qui étaient des frères, qui étaient pauvres, « dis-toi, reste en arrière du marchepied, tu sais, prends la place la moins désirée », de ne pas avoir ce changement-là d'attitude à cause du pouvoir, soit financier ou autre, de la personne. Et en même temps, on a besoin de ne pas oublier que la bénédiction vient de Dieu. On n'a pas besoin de se mettre à la merci d'un puissant de ce monde pour obtenir des faveurs. Toute grâce excellente vient de Jésus. Et on peut dire que le Seigneur prend soin de nous. On a peut-être des situations financières différentes, mais quand on regarde au Seigneur, on se libère d'être à la merci des gens pour dire des choses, puis des compliments qu'on pense pas, puis de dire, ben écoute, j'espérais juste qu'il s'occupe un peu de moi. Donc, des gens attirant les grands de ce monde, faisons attention. Un autre petit bloc, hein? Le savoir-vivre. On commence avec 25-17. « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Donc, c'est de savoir comment doser nos visites, comment doser notre désir d'être avec des gens. Et c'est d'avoir la sagesse de tenter quand c'est désiré autant par les deux. Est-ce qu'il y a un couple qui veut constamment être avec un autre couple, mais il y en a un des deux qui dit, écoute, c'est pas vraiment nos amis, puis on a été gentils une fois ou deux, mais là, il cogne à notre porte à 5 heures un samedi soir, puis on commence à jaser, puis là, ils vont rester. Hein? Linda Lemay a fait une belle chanson sur la visite, hein? Puis ça nous promet que ça va revenir. Et donc, une petite sagesse par rapport au savoir-vivre que Salomon souligne ici. 27-14. Si l'on bénit son prochain à voix haute et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Donc, c'est quand tu en mets trop, hein, quand tu as des propos flatteurs, mais que là, tu en mets vraiment trop, puis ça sonne faux, là. Il n'y a aucune raison que tu dises tant de bien de cette personne-là. Donc, de pas faire attention d'être quelqu'un qui flatte les autres, quelqu'un qui dit des choses qu'il ne pense pas. Puis je pense qu'au Québec, socialement, on a les oreilles sensibles, hein, puis je trouve qu'on fait bien, en général, dans la société, ceux qui sont trop flatteurs, là, puis qui commencent à en mettre, tout de suite, ils se le font dire, de dire, écoute, toi, veux-tu avoir de quoi, là? Pourquoi tu dis ces choses-là? 26-17, comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Avez-vous déjà essayé ça? Ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Hein? En bon québécois ici, ça nous dit qu'on doit apprendre à se mêler de nos affaires, hein? De ne pas s'embarquer dans des disputes quand ça ne nous concerne pas. Jean-Sébastien parlait d'être un faiseur de paix, de rechercher la paix. Puis ici, toute une sagesse. Quand tu n'es pas mêlé dans une histoire, quand ça ne te concerne pas, et que des fois, d'autres veulent te raconter ce qui leur est arrivé, puis que tu n'es pas au courant du tout, il y a des fois, on a besoin de dire, écoute, je peux t'écouter parce que tu as besoin d'en parler, mais écoute, je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé. J'interviendrai pas. Non, je m'en mêlerai pas. Parce que quand je vais arriver pour en parler à l'autre personne, je risque d'avoir l'air stupide puis ridicule que je ne suis pas au courant puis je me mêle d'une chose qui ne me regarde pas. Donc, David qui disait, je m'occupe de mes propres affaires, j'ai le cœur en paix comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Donc, on a besoin d'apprendre en tant que croyant à avoir la paix puis de dire... ce serait tentant d'intervenir, d'aller là, où j'entends quelque chose, mais on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire. Donc, on a besoin d'apprendre à se mêler de ces affaires. Et dans le savoir-vivre, je dirais que l'important, c'est d'avoir ce souci et ce respect des gens pour comprendre comment nos actions et nos paroles sont perçues. Quel impact ça a? On peut voir, là, on cogne à la porte, est-ce que les gens sont contents, sont juste polis, on voit qu'on les dérange et la prochaine fois, on appellera ou on avisera une journée à l'avance et les gens vont pouvoir nous dire si ça les convient. On a besoin d'avoir de la prévenance, hein? La Bible parle de prévenance réciproque, d'avoir la délicatesse de se mettre à la place des gens, de dire est-ce que c'est bienvenu, c'est bien placé, mon intervention. Et nos relations avec les gens qui sont juste des connaissances sont très importantes parce que de toutes les relations intimes, des relations que vous avez avec des gens depuis longtemps, ça a toujours commencé par quelle sorte de relation? Des relations de connaissances que... Tu connais pas, tu fais connaissance, tu te rends compte une fois, deux fois, puis là, tu dis ça va être un bon ami pour longtemps. On continue. Des situations désagréables, hein? Les querelles, ça c'est exactement le contraire de la paix. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Donc, faisons attention avec les personnes colériques, des personnes qui sont facilement montées sur un cran, là, puis la tension embarque, l'agressivité, et quand il y a de la colère, ça amène des querelles, et on a besoin de connaître les gens avec qui on fait affaire, et quand on voit que ça monte comme ça, on veut être celui qui fait baisser la tension. 26-20-21, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Hein? En bon québécois, on dit « va pas mettre de l'huile sur le feu ». Donc, est-ce qu'on veut être quelqu'un qui est un rapporteur? Hein? Imagine, tu parles avec quelqu'un, il y a des petites tensions, puis on peut dire, écoute, je pense que la personne était de bonne foi, puis je t'encourage à aller en reparler, puis de me parler des choses que tu me dis. En as-tu parlé? Non, on n'en a pas parlé. Bien, regarde, vas-y, puis essaye d'arranger ça avec. Là, on calme la fureur, on apaise la querelle, mais si on dit « Ah oui, ça ne me surprend pas qu'il t'arrive ça, moi aussi ça m'est arrivé, puis il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que lui, là, pff, la flamme monte, puis la dispute va durer longtemps. » 17-14, « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. » Avant que la dispute s'anime, retire-toi. 23. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Donc, dans le Nouveau Testament, hein, on a dans Romains 13, Romains 12, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, d'être un pacificateur, quelqu'un qui procure la paix, de voir qu'il y a des situations où il y a une tension, ça chauffe, il y a un peu de boucan qui est là. Qu'est-ce que je vais faire en tant que croyant? Qu'est-ce que je vais faire en tant qu'enfant de Dieu? Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? Hey, moi, je suis pas quelqu'un... Moi, je ne suis pas menteur, je vais le dire ce que je pense. Hein? C'est pas d'être menteur de ne pas dire ce qu'on pense vraiment. Des fois, c'est juste d'être sage, de faire preuve de retenue, d'avoir de l'amour, de faire confiance aux gens que la situation de tension peut s'arranger. Donc, on doit rechercher la paix avec tous. Et on ne veut pas commencer les disputes, on ne veut pas être celui qui met autour des situations où il y a une dispute, puis on ne veut pas non plus être la personne qui alimente les querelles. Dans le Nouveau Testament, hein, dans Jacques 3, 18, que le fruit de la paix, le fruit de la justice grandit dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, 18. Donc, il y a vraiment cet aspect d'être pacifique. Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous ». Donc, le livre des Proverbes nous met en garde. Si tu veux aimer la vie, si tu veux avoir un cœur en paix avec Dieu, fais attention aux querelles. Hein? Tu ouvres une digue. Là, des fois, tu te dis « Écoute, j'ai le droit de parler, puis tu y vas, puis là, tu vas en avoir pour des semaines, des mois, pour des années. Et là, tu penses, tu dis, Seigneur, c'était à refaire. J'aurais donc fermé ma boîte. Hein? J'aurais donc, je me serais retenu, puis j'aurais dit, écoute, Que le Seigneur te bénisse, ou on va essayer de faire pour le mieux sans attaquer, sans mettre de l'huile sur le feu. Donc, des situations désagréables, les querelles. Et quelqu'un dernièrement parlait du bonheur, qu'on recherche le bonheur. Puis là, il y avait plein de choses positives. Ça peut procurer le bonheur. Et là, quelqu'un a dit l'absence de problèmes. L'absence de situations où on est stressé à cause de ces situations-là, et la personne disait que ça aussi, c'est un bonheur qui est doux, un peu calme, pacifique, mais l'absence de problèmes dans nos vies, ça aussi, c'est une partie du bonheur. Et quand on a une absence des querelles avec tout ce qui vient avec, c'est vraiment une partie de la bénédiction de Dieu. L'insensé, la Bible en parle, hein? On parle ici en parlant d'insensés, des personnes difficiles. Parfois, elles sont dures, parfois elles sont insensibles, parfois elles sont blessantes. Et j'ai pris différentes images, même de celles au centre, parce que la personne insensée, selon la Bible, elle n'a pas une allure, c'est pas dans son apparence physique qu'elle est grosse, elle est méchante. Non, c'est dans son être, c'est dans son cœur qu'il y a des manques. Cette personne-là peut être blessante, peut être fermée. Et on ne parle pas nécessairement des gens avec qui vous vous entendez pas bien. Tu sais, il y a des gens qu'on a moins d'affinité ou quand qu'elle parle, on trouve ça fatigant, puis on va parler avec une autre. Non, c'est pas ça une personne insensée. Pour vous situer, là, je dirais que une personne insensée dans votre paysage, là, vous n'avez à peu près une sur 30, une sur 50. Là, c'est vraiment une personne, aussitôt que tu la connais un peu, tu vois, tu dis « Ouh! » Elle est spéciale, lui, je te dis, y as-tu parlé avec? Dans notre société, bien des fois, on dit que c'est une personne toxique. Bien, la Bible, Salomon avait déjà identifié ce genre de personne-là en disant que ça, c'est un insensé. Il est difficile, voire impossible, de s'expliquer pour essayer de se comprendre, de s'entendre, avec ce genre de personne-là. Et la Bible, et en particulier le livre des Proverbes, les appelle à juste raison insensés. Faisons attention que s'il y a des personnes qui sont pas aussi matures qu'on voudrait de les étiqueter tout de suite insensés, on veut donner vraiment la chance au coureur à tout le monde. Aussi, on veut dire que ce ne sont pas des gens qui sont timides, repliés, réservés, mais c'est vraiment des personnes que quand leur caractère sort, qui sont agressives, blessantes, vraiment des gens qui empiètent sur la vie des autres. Et on a tous, probablement, tant mieux si vous n'en avez pas, mais on a tous une ou quelques personnes qu'on est en contact, qu'on n'a pas le choix et qui sont toxiques, qui sont agressives. Et il y a une grande sagesse à savoir comment agir avec ces gens-là. Premier verset, 17-12. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Donc, premièrement, protège-toi, éloigne-toi, parce que quand il est dans son pire, là, quand il est dans sa crise, l'insensé, il faut que tu te protèges. Mets-toi sur la défensive. On appelle ça se mettre des limites. De ne pas laisser ces gens-là qui, par moments, peuvent être comme une tornade, un ouragan venir puis dévaster ta vie. Tu as besoin de ne pas les laisser faire, de ne pas les laisser aller trop loin. Et parfois, la seule façon, c'est de t'éloigner. Comment on fait ça, s'éloigner? Tu es au téléphone, puis là, tu as dit à la personne de se calmer, puis à un moment donné, de dire, oh, « Regarde, on se parlera plus tard. » Tu t'es protégé. Tu dis, « Je ne laisserai pas cette personne-là troubler mon cœur, troubler mon âme. » Ces paroles-là méchantes qu'elle me dit, ça va me résonner pendant des semaines, des mois. Je veux tout simplement pas les entendre. Parfois, quand on est en personne, on peut juste dire, écoute, pour moi, c'est trop tendu. On reprendra notre rencontre une autre fois s'il faut, mais moi, je vais quitter. Donc, se protéger. Ensuite, 27.3, la pierre est pesante. Hein? C'est pesant. Le sable est lourd. Une chaudière de sable, là, c'est, je pense, c'est plus pesant que de l'eau, ou presque semblable. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Wow! L'insensé, la personne toxique, cette personne-là, hein, on dit souvent ça, elle est lourde. Tu parles avec, là, puis en dedans, là, t'es écrasé, là, tu dis, écoute, j'étouffe, j'en peux plus. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de ne pas prendre ce fardeau-là, de ne pas se laisser accabler, de ne pas se laisser irriter outre mesure. Il faut qu'il y ait une façon de ne pas juste se sentir écrasé, puis de dire, on m'a lancé un sac de sable, puis là, je l'ai dans les bras, je l'ai sous mon cœur, puis je ne sais plus quoi faire. Deux petits conseils que j'ai besoin moi-même beaucoup de mettre en pratique. Un, c'est de ne pas être hypnotisé par cette personne-là. Ça veut dire ne pas toujours penser à cette personne. Pas toujours rejouer le tape de ce qui est arrivé, de ce qu'elle m'a dit, de ce qui s'est passé, puis de... besoin de dire, ah, écoute, je vais prier. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, oui, ça fait une semaine. C'est normal, j'y pense encore. Mais de ne pas faire par exprès, de s'aider un peu pour ne pas toujours fixer les yeux. Aussi, ne pas démoniser la personne. Et par démoniser, c'est des fois, c'est tellement gros qu'on le met encore plus gros. Puis on met la personne pire qu'elle est en réalité. On en fait un monstre. On a besoin de relativiser les choses et de juste dire, écoute, c'est arrivé, ça n'arrive pas tout le temps. Oui, il y a le potentiel, mais on ne veut pas mettre ça plus gros, c'est déjà assez gros. On veut essayer de passer à autre chose. Encore sur l'insensé. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ah! Ne réponds pas. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde point comme sage. Dans le même verset, ça dit, réponds pas à l'insensé, puis l'autre, ça dit, réponds. On répond ou on répond pas? On essaie d'avoir la sagesse pour savoir quoi faire et quand le faire. Si on a à répondre, on veut répondre avec contrôle de notre part. Et c'est ce que souligne le verset. Hein? Réponds pas selon sa folie, embarque pas avec lui, mets-toi pas à crier, il t'insulte, il te dit des choses blessantes, ben embarque pas dans ce concours-là de paroles désagréables. Ben, après, tu vas te calmer puis tu vas dire, hey, il m'a fait perdre la tête. Hein? Je parle jamais de même. Puis là, il m'a fait sortir de mes gonds. Donc, on veut pas réagir à l'extrême. On veut pas lui ressembler parce qu'on pense que c'est mal d'agir, de parler comme ça. Et on ne veut pas avoir des regrets plus tard pour dire hey, que j'aurais donc dû. Donc, on ne veut pas répondre de la même façon. Mais en même temps, on veut lui donner la chance d'avoir l'information. Il ne pourra pas dire, ben, tu m'as jamais dit que ça te dérangeait ou tu m'en as jamais parlé. Oui, il y a une place pour répondre, pour qu'il sache au moins qu'on pense que ce qu'il fait, c'est mal. Verset 29:9. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Donc, ce que ça dit ici, c'est qu'avec l'insensé, là, il n'y a rien à attendre. Et pas des grandes attentes. Sois juste content de l'avoir dit une fois, puis s'il rejette tout en bloc, puis qu'il dit, voyons donc, c'est tout pas vrai, c'est rien que normal. C'est là qu'il prouve vraiment qu'il est un insensé. Quand on discute, puis qu'on a des tensions, des querelles entre personnes raisonnables, des fois, on n'est pas d'accord avec l'autre, mais on écoute, puis on le dit, écoute, je comprends ce que tu dis telle chose, mais moi, je le vois pas de même, puis mais écoute, je vais prier là-dessus, je vais réfléchir, puis on pourra s'en reparler. Mais l'insensé, lui, t'as beau expliquer de toutes les façons, il va nier l'évidence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Donc, il faut que nos attentes soient très basses. Pas parler beaucoup en pensant qu'à force de parole, il va comprendre. Il faut se préparer et accepter un refus complet. Ils vont rejeter en bloc tout ce que vous avez dit et expliqué. Des fois, après des situations qui ont été des drames, ces personnes-là, une fois que vous avez pu parler un peu, vont dire, écoute, c'est à refaire, là, je referais exactement la même chose, tout pareil. Tout le monde a été blessé, bouleversé, un drame dans la famille, au travail, à l'église, et la personne dit, regarde, je ferais exactement la même chose. Avec ce genre de personnes-là qui peut vraiment troubler nos vies, on a besoin de garder la porte ouverte. Pas grande ouverte, la garder au moins entrouverte. Ça veut dire d'avoir une place dans notre cœur où on dit, écoute, je me protège, puis ça va prendre du temps avant qu'on se revoie, puis c'est pas moi qui va faire les premiers pas. Mais si jamais dans 5 ans, dans 10 ans, la personne change, hein? Les miracles, ça existe. Et si la personne vient avec une autre attitude, ben, je suis prêt à y ouvrir la porte. On veut pas lui ressembler, donc on a besoin de se garder, de dire, écoute, moi, je veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Vous avez le droit de le penser, mais vous le dites pas, de penser seulement. La meilleure chose à faire face aux personnes désagréables est de s'en éloigner si c'est possible. Et si ce n'est pas possible de couper tout lien parce que c'est un membre de votre famille, un voisin, un compagnon de travail que vous ne pouvez pas changer d'emploi, la première chose, c'est de ne pas perdre son calme et de ne pas se laisser troubler outre mesure. Faut ensuite éviter d'avoir pour but de le changer, parce que notre déception va être grande. S'expliquer pour comprendre en pensant qu'à force de parole, la personne va comprendre, non plus. On a besoin de chercher la paix et une protection. Comme je dis souvent à ma femme, je suis content de ne pas être marié avec cette personne-là, hein, quand on en a considéré que notre conjoint, nos enfants, c'est des relations proches et on n'a pas d'insensés comme ça directement dans la famille. Donc, on peut dire, je ne suis pas obligé, je ne suis pas lié avec cette personne insensée. Personnellement, quand je connais bien la vie, le vécu des personnes qui agissent comme ça, je m'aide moins en comprenant ce que la personne a subi, a vécu, ce qui a pu contribuer à l'amener à avoir ces attitudes-là. Moi, ça m'aide à accepter, ça apaise là, mon sentiment de frustration. Ça ne justifie pas leur attitude, mais ça aide à accepter. Donc, ça a été écrit il y a 3000 ans, mais des gens comme ça, il y en a tout le temps. Et le Seigneur veut qu'on ait cette sagesse, qu'on garde un amour envers notre prochain puis envers tous nos prochains, même s'il y en a qui sont plus durs à aimer que d'autres. Mais il ne veut pas non plus qu'on se détruise puis qu'on se laisse détruire puis qu'on soit à la merci de ces gens-là. Il y a une façon sage de se protéger, d'interagir, de parler une fois. La personne n'a rien voulu savoir, bien, on l'a dit, puis après ça, on regarde ailleurs et on veut continuer à vivre notre vie. On veut terminer positivement les relations dans le livre des Proverbes avec les amis. On va voir quatre caractéristiques. Premièrement, une personne fidèle. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et 27:10 qui nous dit, « N'abandonne pas ton ami. » Et chacun d'entre nous, c'est toute une bénédiction d'avoir un ou quelques amis en qui on a une confiance absolue. Que quand on va tomber et qu'on va avoir besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, que cette personne-là, elle va être présente, on peut la décevoir, elle ne s'éloignera pas de nous. Donc, d'avoir une confiance absolue. Un vrai ami va être loyal. Il va se montrer digne de la confiance qu'on a placée en lui. Donc, c'est tout un avantage, c'est toute une bénédiction de dire, j'ai pas plusieurs amis intimes, là. J'en ai un, deux, trois. Déjà, c'est énorme, là. Mais cette personne-là est fidèle. Je peux compter dessus. Deuxième, une personne honnête. Parce que si on a une relation spéciale comme ça, ça veut dire qu'on a une intimité. On entre dans nos vies. On partage ce qu'on vit vraiment. Puis la personne nous écoute, nous comprend. Puis cette personne-là aussi, au besoin, elle va nous donner un bon conseil. Elle va dire la vérité. Donc, on parle ici de franchise, une réprimande ouverte. Le verset nous dit, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouve sa fidélité. » Et 28-23, « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Ici, on ose parler. On ose aborder les sujets que on ne sait pas si notre bon ami qu'on a confiance, s'il va le prendre, s'il va l'accepter. Un bon ami va nous dire la vérité et nous reprendre lorsque nécessaire. Et toute la question est là, c'est quand est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et il va le faire même si ce n'est pas facile pour lui. Et à l'occasion, il va même être prêt à risquer l'amitié pour le bien de l'ami. L'honnêteté, c'est un bon test pour évaluer la qualité de la relation. On se voit-tu une fois de temps en temps, puis on évite les sujets litigieux, puis on repart, puis on n'a pas touché nos vies, mais on est en paix, on a passé un temps agréable. La sagesse, c'est de discerner quand c'est nécessaire de reprendre et de ne pas en abuser. Si on a une relation proche, mais que la personne sur des goûts, des préférences, des achats, des voyages, la personne se dit, il me semble, avais-tu vraiment besoin d'aller une semaine à Cuba? Ou ton auto, là, il me semble, comment tu l'as payé? Il me semble que c'est un peu cher. Tu sais, le Seigneur, on pourrait utiliser notre argent d'une autre façon. C'est des choses mineures, ça peut briser la relation. En même temps, on a besoin d'avoir cette ouverture-là. Une des bonnes façons d'avoir cette ouverture-là, c'est de s'échanger, de dire, écoute, quelle place tu me donnes, quel droit tu me donnes de parler de choses qui pourraient survenir dans ta vie. Ah, écoute, je veux que tu m'en parles. J'ai confiance en ton jugement. Je sais que tu vas le faire de la bonne façon pour mon bien. Puis peut-être que quand tu vas me le dire, ça va me saisir parce que je n'étais pas prêt à ça. Mais quand je vais être chez nous, après, je vais dire, hey, je suis content que tu m'en aies parlé. Donc, on a besoin de s'accorder le droit d'intervenir comme ça dans nos vies et de le faire. Troisièmement, une personne engagée, c'est-à-dire qu'il y a un amour qui est réciproque, il y a un engagement de dire, cette personne-là, dans le Seigneur, elle compte particulièrement pour moi et comme je suis engagé envers la vie de mon épouse, envers la vie de mes enfants, puis que s'il arrive quelque chose, je ne resterai pas là en spectateur, du « Oh, regarde, ça ne me regarde pas », il y a cet engagement. 27.9, l'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Donc, la personne, elle intervient. Je pense à l'exemple de Jonathan et David. Hein? Jonathan, David aurait dû être son ennemi. C'est celui qui prenait la place, à sa place sur le trône. C'est lui qui aurait dû être un des fils de Saül puis devenir roi. Mais écoute, il s'est réjoui, puis sa vie a été mise au service de David et de la stabilité du trône de David. Une relation qui n'aurait jamais dû être là et qui brille par la splendeur de la fidélité de Jonathan. Et imaginez si on a une ou deux personnes dans nos vies qui sont engagées comme ça envers nous. Et la vraie amitié veut faire du bien. Spirituellement, dans le Seigneur, on veut la croissance, la maturité spirituelle de notre ami. On va savoir discerner avec sagesse comment on peut y contribuer. Un petit conseil, un petit encouragement, une petite réprimande, mais qui était nécessaire que par après, la personne va nous dire, écoute, j'ai pas aimé ça quand tu m'as parlé de telle chose, mais maintenant, je suis content que tu l'aies fait. Donc, une personne engagée. Quatrièmement, une personne modèle. Le juste sert de guide. 12.26, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. 22.23, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Que ce soit que la personne est colérique, qu'elle ait des propos sur la sexualité déplacés ou peu importe qu'il y ait de la malhonnêteté dans sa vie, si on est trop proche, trop souvent d'une personne qui n'est pas un modèle pour nous, veut pas, même si on est les chrétiens les plus consacrés, puis qu'on dit, je le sais qu'il agit de même, mais ça ne m'influencera pas, je veux le gagner, ça va avoir un impact. quand va venir la possibilité de pécher, la tentation, le fait qu'on a vu ça pendant des années de notre vie, peut-être que, whoop, on va tomber à ce moment-là. Donc, on veut avoir des personnes qui sont des modèles. Proverbe 13:20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Fait tellement penser à 1 Corinthiens 15:33. Hein? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autant on a des bonnes intentions dans le Seigneur, qu'on veut suivre la parole, on veut marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté, marcher dans la lumière, si on se tient constamment avec des gens qui font le contraire que ce qu'on désire, ça va nous influencer, ça va nous atteindre et ça risque de nous faire tomber. Donc, pour nos amis, ce que je me souhaite et ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez des amis proches qui partagent les mêmes valeurs dans ce qui est le plus important dans votre vie. Hein? Un proverbe très québécois, hein, qui se ressemble, s'assemble. Assurons-nous que nos amis intimes pratiquent et incarnent les qualités et les valeurs qui sont les nôtres. Ça, c'est mon trésor. Ça, c'est ce que j'ai le plus important. C'est Jésus. C'est l'assurance de la vie éternelle. Bien, parmi mes amis les plus proches, je vais avoir des amis qui ont les mêmes valeurs. Et vous pouvez avoir une personne extrêmement proche qui n'est pas au Seigneur, mais cette personne-là n'aura pas une influence négative. Elle va vous respecter, elle va éviter certains propos et vous allez tout de suite le voir et le sentir. Un ami intime a une grande influence sur nos vies. C'est une source de joie, d'appui, de soutien, d'encouragement. Et on veut s'assurer que cette influence-là soit positive pour notre marche dans le Seigneur. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et même ta parole que tu as donnée par Salomon il y a 3000 ans. Seigneur Jésus, merci pour l'effort qu'on peut faire pour lire, pour comprendre, pour aller sortir la sagesse, l'aspect d'enseignement qui est utile. Et Seigneur Jésus, donne-nous la sagesse de l'appliquer à nos vies. Merci pour le fait que tu nous as placés en société. Tu veux qu'on s'aime les uns les autres. Tu veux qu'on prie les uns pour les autres. Tu veux qu'on se soutienne, qu'on se supporte même. Seigneur Jésus, les relations sont importantes pour toi. Et Seigneur Jésus, donne-nous que les relations qu'on a avec tous, avec les gens qui sont croyants ou non, que ce soit une source de bénédiction. Seigneur, on veut que ta parole nous dirige, que ta parole nous aide à faire les bons choix. Seigneur Jésus, aide-nous dans les situations de tension, dans les querelles ou avec des personnes plus difficiles. Donne-nous ton discernement, donne-nous ta force, donne-nous de concentrer nos pensées sur toi afin que tu nous donnes ta paix dans ces situations. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. On te le prie en ton nom. Amen.